C'est plaisir d'être ici. Oh, ça faisait longtemps, hein. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression que ça fait des années. Et ça passe vite, hein. Ça passe vite, mais je suis super content. On est super content d'être ici, de venir en famille, dans notre famille d'église. On est venu en famille, et une famille qui s'agrandit, puisqu'on a la joie de vous annoncer, vous l'avez vu, un heureux événement pour fin avril, début mai. Voilà, donc on est super content. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien j'ai officiellement eu ma notification pour ma prochaine mutation à l'été 2022 à Salon de Provence. Donc là aussi, on rend grâce, on rend vraiment grâce à Dieu, parce qu'après la Marne et son soleil, mais qui est au-dessus des nuages, et après Toulouse, voilà, on va pouvoir enfin rentrer au bercail en famille. Et puis la dernière chose qui est bien, c'est que là, on est dans le projet de se rapprocher d'Avignon, du coup, et même du Gard. Et on a un projet immobilier en cours pour se rapprocher, et on serait à peu près 20-25 minutes de Marguerite. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. J'aimerais commencer ce message ce matin par une anecdote qui s'est passée l'an dernier, c'était au printemps, c'était au Mali. Alors, le printemps au Mali, il devait faire quoi? 55, 56 degrés à l'ombre. Ciel dégagé, c'était relativement calme dans le désert du Sahel. Donc on était dans ce camp militaire. Donc c'était assez calme, tranquille. Et puis d'un coup, on a entendu une série d'explosions tout autour de nous. Ça a pété partout. Et là, on voit de la fumée qui monte à droite, à gauche. On a un petit temps où on se dit, c'est pour de vrai ou qu'est-ce qui se passe là? Et puis d'un coup, l'alarme se met à sonner. Alors on se dit c'est mieux si elle sonne avant, mais bon, c'est pas ça marche pas toujours dans le bon sens. Et là je me suis dit ok, on va prendre tout l'équipement, on fonce dans l'abri le plus proche et on se met en sécurité. Parce que c'est vrai que ce type d'événement, ça arrive régulièrement. Donc je vais dans ma tente, je prends mon équipement, mon attirail, et avant d'aller vers l'abri, je me suis arrêté vers la tente d'un collègue avec qui on s'était dit, si jamais il y a une attaque comme ça, on va veiller que l'autre il soit bien en alerte. Et qui comprennent ce qui se passe. Parce que des fois, c'est étrange, mais on n'entend pas. Il est même arrivé à un collègue, c'était pendant la nuit, il dormait et ça n'a pas réveillé, quoi. Donc tout le monde s'est demandé où il était. En fait, il faisait sa nuit, quoi. Bon, bref, je vais voir, je prends mon attirail, je fonce vers l'abri, je m'arrête vers la tente de mon collègue et puis je vois qu'il n'est pas là. Je me dis, bon, ben, j'attends pas plus longtemps, je vais vers l'abri. Donc on court, hein, c'est des camps, c'est sur des kilomètres, donc. J'atteins l'abri, et là, on était plusieurs, et je le vois. Alors je me dis, ouf, soulagé, parce qu'il est là, il est sain et sauf, c'est ce qui compte. Et puis je me suis dit, on s'était dit que s'il y avait une attaque, on veillerait l'un sur l'autre. Et moi, je me suis arrêté à sa tente, mais lui, il a couru vers l'abri, il s'y est pas arrêté. Et je me suis dit, c'est sympa, voilà, j'ai été blessé par ça, en fait. Et j'ai ressenti quelque chose que la Bible décrit, et c'est un sujet que la Bible traite largement, c'est l'amertume. Ça peut très vite arriver. Une blessure, une parole, quelque chose, boum, l'amertume rentre. Et ce matin, on va se baser sur ce passage de Hébreux 12. C'est étonnant de voir comment la Bible traite de ce sujet. Très étonnant. Quand on creuse ça, c'est vraiment sans aucun détour, très cash. Hébreux 12, verset 15. Un passage qui nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et là, il ajoute quelque chose qui est très étonnant, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane. Alors on se dit, qu'est-ce que ça fait là? Alors, pour le contexte, très rapidement, l'auteur de cette lettre, on va dire que c'est Paul, il met en garde ses destinataires, les Hébreux, contre l'amertume. Alors pourquoi? Parce que, en fait, les Hébreux venaient de subir une première vague de persécution. Il y avait des privations de biens, des violences, des intimidations à cause de leur foi. Et ils ont été blessés par ça. Et c'est vrai que quand on voit des chrétiens persécutés, moi j'ai pu le voir en mission, c'est dur, quoi. quand on a un membre de la famille qui a été enlevé, quand il y a eu des règlements de compte, des morts, enfin, c'est très compliqué à gérer émotionnellement. Et là, les Hébreux, ils venaient de passer par une vague de persécution. Paul était au courant. Et il était aussi au courant qu'il y avait une deuxième vague de persécution qui allait arriver. Et en sachant ça, il s'est dit, je vais anticiper les choses, parce que je pense dans cette communauté, ça a dû être difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il va les mettre en garde contre l'amertume. Alors dans le chapitre avant, le chapitre 11, qu'on connaît bien, il va parler de tous les héros de la foi qui ont vu et salué de loin les promesses, qui vraiment ils sont allés jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché, pour les encourager. Et au chapitre 12, il va faire une série de mises en garde sur l'amertume. Et comme je disais, en traitant ce sujet, on voit comment la Bible est très cash, sans aucun détour. En fait, la Bible parle des sujets comme l'amertume, le cynisme, l'animosité, les querelles, la convoitise, la jalousie, tous les sujets, tous les sentiments qui détériorent les rapports humains, elle va les traiter avec, comment on pourrait dire, sévérité, enfin, sérieux. Et même à chaque fois que la Bible va en parler, presque à chaque fois, elle va dire, je vais caricaturer, hein, quand vous avez ces sentiments, il y a l'ennemi qui est là. À chaque fois que vous avez ce type de sentiment, l'ennemi, il est là. On va prendre par exemple en Éphésiens 4, 26, si on prend l'exemple de la colère, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez, il dit, attention, il y a de la colère, le diable n'est pas très loin, parce que si, on peut se mettre en colère, mais en fonction de ce qu'on en fait, ça peut donner accès au diable. Prendre un deuxième exemple, il y en aurait bien d'autres. En 1 Pierre 5, verset 8, il est dit, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc il y a vraiment cette critique de l'orgueil dans les relations qui vraiment détériore les rapports. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez, à chaque fois qu'il est dit qu'on développe des mauvais sentiments vis-à-vis de quelqu'un, les apôtres disent attention, il y a une place d'influence pour l'ennemi. Et on retrouvera même ce type de mise en garde dans le langage de l'Ancien Testament, où là les descriptions sont encore plus directes. Alors dans les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le livre de Job, où il est décrit la personne querelleuse qui a ce goût d'amertume dans la bouche qui descend jusqu'aux entrailles, avec cette idée que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a vraiment cette description du querelleur qui va chercher à détériorer les rapports, les relations humaines. Et dans tous les livres de sagesse de la Bible, on décrit ces phénomènes en disant, ça c'est vraiment mauvais. D'après les apôtres, dans leur logique, c'est même une forme de comportement diabolique. Et puis on pourrait même remonter encore avant, si on remonte aux 10 commandements. Le dernier, la dixième parole, qu'on connaît bien, c'est encore une mise en garde de ce type. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. Ah oui, il y a même le bœuf et l'âne, il y a tout. Il y a le package complet. Et l'idée de ce désir, c'est de désirer avec avidité. C'est de dire, je me réjouis plus parce que l'autre il est béni, mais je vais être jaloux avec cette fameuse question pourquoi? Pourquoi il a une plus grande maison que moi? Pourquoi il a une plus belle voiture? Alors que moi, je la mérite plus que lui, parce que ben, je suis meilleur. C'est ça qui est sous-jacent dans tous ces sentiments et ces ressentiments. Pourquoi il a des choses que j'ai pas? Pourquoi il n'est pas passé par des épreuves que moi, j'ai dû traverser? Et pourquoi? Et pourquoi moi? Et pourquoi pas l'autre? C'est pour ça que la Bible met en garde contre ce type de sentiment. Attention à ce type de sentiment. Alors, si on reprend le passage qu'on a pris, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Alors, si on reprend l'idée de ce passage, Une racine d'amertume suppose qu'il y ait une graine. Et la graine vient d'où? Si on regarde dans le contexte de ce passage, la graine, elle vient d'une blessure. Les Hébreux, ils ont été blessés par ces persécutions. Physiquement, intérieurement. Et là, il leur dit, vous avez été blessés, il y a une graine qui a été plantée, et c'est la graine de l'amertume. Alors, tous ceux qui sont blessés, quand on est blessé, on n'est pas forcément dans l'amertume, évidemment. Mais, tous ceux qui sont amers, ils ont vécu une blessure à un moment donné. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Paul ne remet à aucun moment la blessure des Hébreux. Il ne leur dit pas que c'est illégitime, il ne leur dit pas qu'ils n'ont pas le droit d'être blessés. Au contraire, il ne remet pas ça en question. Vous avez le droit d'être blessé, vous avez le droit de ne pas pardonner tout de suite, ils sont encore trop vifs. Vous avez le droit de ne pas avoir de joyeuses pensées envers vos bourreaux. Il y a du temps pour ces choses-là. Mais là, pour l'instant, c'est difficile. Donc, il ne remet pas en question ce droit. Quand on est blessé, voilà. Il y a du temps, il faut encaisser, il faut du temps pour que les processus se mettent en route avec Dieu. Mais la limite qu'il pose, c'est celle de l'amertume. Et il parle, alors c'est intéressant, le langage qu'il prend, il dit une racine d'amertume qui pousse des rejetons, qui produisent du trouble, que plusieurs en soient infectés. Vous voyez les termes qui sont choisis par Paul, hein, c'est vraiment une infection, il en parle comme d'une infection. Et après il dit que ça produit deux choses, l'impudique et le profane. Alors ça, c'est assez étonnant, parce que si on écrivait à des amis chrétiens qui étaient persécutés, est-ce qu'on les mettrait en garde contre l'impudique et le profane? Ça, c'est en relisant le passage, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors l'impudicité, littéralement, ça veut dire de ne pas avoir de pudeur. Et le dictionnaire ira même jusqu'à dire comportement qui outrage la morale sexuelle établie. Est-ce que vous feriez ce type de mise en garde à des chrétiens persécutés? Bon, on se dit, le dictionnaire français, il y va fort. Hein. Mais si on regarde dans le texte original en grec, le mot impudique, c'est le mot porneia. Alors là, c'est encore plus caractéristique. Porneia, ça veut dire... Pornos, c'est l'ensemble des dysfonctionnements liés à la sexualité. Adultère, fornication, abus, prostitution. C'est le pire niveau de destruction des rapports humains. Et on pourrait évidemment appliquer ça à différentes formes de pornographie. Donc je vous l'ai dit, quand la Bible parle de l'amertume, pas de détour. On rentre dans le sujet. Et puis, Paul va rajouter un deuxième effet de l'amertume, c'est le profane. Alors le profane, c'est tout ce qui est en dehors de la connaissance et de l'expérience de Dieu. En fait, ça revient à dire, si vous accueillez l'amertume, vous ne serez plus des êtres spirituels. Profane, c'est très fort, hein, c'est pas, vous sortez du temple, vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, vous n'êtes plus dans la connaissance de Dieu. C'est pas vous y êtes un petit peu, c'est compliqué. Non, vous allez sortir de cette sphère-là et vous serez en fait, on pourrait dire, uniquement matérialiste. Vous n'êtes plus spirituel, vous êtes juste des êtres intéressés par les choses du monde. Et en fait, l'idée du profane, c'est de dire, quand tu es chrétien, tu considères les choses spirituelles et célestes. Tu espères dans la vie éternelle, tu espères dans la justice de Dieu. Et si tu souffres et si tu ne sais pas pourquoi tu passes par cette épreuve, si tu trouves que cette souffrance est injuste, tu sais qu'un jour Dieu mettra tout en lumière. Tu sais qu'un jour Dieu te rendra justice. Tu sais qu'il t'expliquera tout, qu'il essuiera les larmes de tes yeux. Il le fait déjà ici-bas et un jour il te donnera une révélation qui fera que ça prendra du sens. Un jour il lavera ton honneur, il t'élèvera dans sa gloire. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, tu peux pardonner et ne pas vivre dans le passé. Parce que le problème de l'amertume, c'est que ça nous connecte au passé. Quand tu passes au niveau du profane, tu enlèves toutes tes espérances. Tu ne crois pas qu'un jour il y aura une justice. Tu ne crois pas que tes souffrances ont un sens ou qu'elles en auront un jour. Et on revient dans un monde où il n'y aura jamais de justice. Et puisque la vie était injuste avec moi, maintenant moi aussi je vais être injuste avec les autres. et on devient exactement ce qu'on condamne dans ce monde. Et c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Je pense qu'on peut tous en constater autour de nous, au travail ou ailleurs. Moi, j'ai remarqué de mon expérience que quand on est dans l'amertume ou quand on voit des gens amers, ces gens sont rapidement blessés par plein de petites choses. Par des choses légitimes, mais par les petits détails, très rapidement, on est blessé. Et puis, on a tendance à être très critique de façon récurrente sur telle ou telle personne ou sur tel ou tel événement ou institution. Et puis, c'est là où, en fait, il y a ce côté diabolique, je prends un gros mot, c'est qu'on devient comme l'accusateur. On accuse les autres. Et surtout, en fait, l'amertume, elle nous connecte au passé. On est toujours dans le passé, on est toujours en train de ruminer des mauvaises pensées et on n'est pas vers l'avenir, on ne peut pas rêver avec Dieu, on ne peut pas se projeter. Alors, je me suis posé la question, pourquoi on tombe dans l'amertume finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'amertume? Qu'est-ce qui fait que des fois on se dit on va ruminer des mauvaises pensées envers quelqu'un, envers une situation, même parfois envers Dieu? Alors, je crois premièrement que, comme je l'ai dit, l'amertume elle vient d'une blessure. Et quand on subit une injustice, on veut que justice soit faite. Et ça, c'est légitime. On peut dire à Dieu, je veux que justice soit faite, je veux que tu interviennes et que vraiment tu rétablisses les choses. C'est tout à fait légitime. Donc l'amertume, c'est une façon de vouloir exercer une justice. Mais c'est une mauvaise façon de le faire. Pourquoi? Parce que tout dépend de quelle justice on parle. C'est ça tout le sujet. Et la frontière peut être subtile. Quand on recherche la justice avec Dieu, on n'est pas motivé par la rancœur ou le ressentiment. Si dans mon travail j'ai été lésé ou quelqu'un m'a fait un sale coup, je vais chercher la justice, mais pas dans le but de régler mes comptes et de me venger. Ce n'est pas à coup pour coup. On cherche la vérité, on cherche ce qui est juste pour que ça produise la paix. Donc, quand on a été lésé, on a le droit d'aspirer à la justice, de dénoncer l'injustice, mais pour que ça produise la vérité et la paix. Mais lorsque cette recherche de justice devient un règlement de compte et une vengeance, là on dérape, et c'est typique de l'amertume. On veut du mal à l'autre en fait. On veut lui rendre coup pour coup. On ne veut pas lui faire grâce. On ne cherche pas à ce que ça s'arrange. On veut juste faire du mal à l'autre. Vraiment le frapper là où ça fait mal. Moi ça m'est encore arrivé récemment au travail. Hein. Enfin récemment, quand je suis arrivé... À Toulouse, il y a quelqu'un en arrivant qui a profité de que je ne connaissais pas vraiment le coin pour me mettre en difficulté. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la même occasion, j'aurais pu lui rendre la monnaie de sa pièce. Dans la même occasion, dans les mêmes conditions, j'aurais pu vraiment me venger. Parce que, voilà. Et là, je me suis dit, je ne vais pas le faire, je ne suis pas comme ça. Voilà. Même si on me fait un sale coup au travail, on me fait quelque chose qui ne va pas, je vais pas, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'aller voir la personne et de rechercher la paix. Voilà. Je veux que ce soit... juste, je ne veux pas être lésé, mais au final, pas au prix de la paix. Donc c'est pour ça que l'amertume, c'est ce dérapage où on veut qu'il y ait une justice qui soit faite, mais ça dérape dans la vengeance, ça dérape dans le règlement de compte, dans le coup pour coup. Et c'est là où Paul dit, attention, en fait le problème c'est que si on tombe dans ça, on ne peut plus prêcher la paix et la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit « faites attention ». Parce qu'il faut savoir que les Hébreux, ils avaient tellement souffert, et on le voit dans l'Épître, qu'à un moment donné, ils considèrent même de plus montrer leur foi, de plus montrer qu'ils sont chrétiens pour échapper à la persécution, tellement qu'ils avaient peur. Et Paul dit non, restez dans cette recherche de la paix, recherchez la paix, soyez des artisans de paix. Ne tombez pas dans l'amertume, ne soyez pas amers. Vous avez été blessés, mais ne tombez pas dans ça. Alors c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais il y a vraiment cette idée-là. Et puis la deuxième chose, pourquoi on tombe dans l'amertume? Alors il y aurait plein d'autres idées, je suis sûr que vous-même, vous pourrez me dire, mais t'as oublié ce point, il y a plein d'autres aspects qu'on pourrait voir, moi je partage juste ma pensée ce matin sur ça. L'amertume, elle est séduisante, parce que c'est vrai qu'elle se base sur l'expérience de la vie. Si quelqu'un m'a trahi, je pourrais toujours me dire « Ah, j'ai pas été assez prudent, j'étais trop naïf, j'ai pas vu venir. » Pourtant, les signaux étaient là, Je n'ai pas vu venir, puis boum, quelque chose m'est arrivé et je trouve que ce n'est pas juste. J'ai été victime de quelque chose. Donc demain, je serai plus attentif, je vais mieux discerner et je ne vais pas tomber dans le panneau. Donc ça, c'est la prudence, ce n'est pas mauvais. Mais ça peut vite, encore une fois, déraper dans l'amertume en disant, bah, de toute façon, tout le monde est pourri. De toute façon, maintenant, je ne vais plus me faire avoir. Moi, encore récemment, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oh non, mais de toute façon, moi, je suis bientôt à la retraite, plus jamais quelqu'un me fait un sale coup, je m'investis plus, je fais plus rien, blabla. Je dis, waouh, ok, tu t'es fait ton idée, c'est dommage. Donc, il y a vraiment cet équilibre et ce dérapage qui peut se faire en se disant, j'ai souffert parce que peut-être j'ai pas été assez prudent, mais je ne vais pas tomber pour autant dans le cynisme et l'amertume. La prudence, c'est différent de l'amertume. Parce que la prudence, elle peut nous amener à rechercher la paix. Quand on tombe dans le tout pourri, de toute façon, je ne ferai plus jamais confiance à personne, c'est comme ça, on n'espère plus, on ne peut plus être des artisans de paix. On ne peut pas témoigner comme ça. C'est compliqué, très compliqué de dire, ah, de toute façon, ils sont tous pourris, mais Dieu est génial, t'inquiète, tu vas te réconcilier avec tes amis, machin. Ce serait compliqué, ce serait très compliqué. Mais voilà, je crois que des fois on tombe dans le piège de l'amertume parce qu'en fait, inconsciemment, on a peur d'être naïf. Et puis des fois, on s'en veut de ne pas avoir su discerner. On s'en veut soi-même, on se dit, ah, j'aurais dû le voir, je ne l'ai pas vu venir, ah, je m'en veux. Donc on peut être amer envers soi-même, envers les autres. Mais il y a vraiment cette idée de, voilà, maintenant l'amertume, ça va être un bouclier, je vais critiquer tout le monde pour être sûr de savoir que tout le monde est pourri et que du coup, je m'attendrai à plus rien. Sauf que ça ne marche pas, évidemment. Ça ne marche pas. Et surtout, alors c'est ça comment dire, l'absurdité vraiment de l'amertume, c'est que ça ne produit ni justice, ni paix, ni rien du tout. Ça ne produira rien de bon, si ce n'est que ça va nous détruire, nous. Ça va nous donner des sentiments qui vont nous détruire, nous. En lisant le passage d'Hébreux, j'ai lu un petit peu des articles sur l'amertume. Et je lisais dans une revue scientifique, un psychiatre qui disait l'amertume, c'est boire soi-même le poison et s'attendre à ce que l'autre en meure. C'est l'absurdité du truc. On va être amer, on va se dire oh, je lui veux du mal, comme si ça allait l'atteindre. Vous savez, la force de Dark Vador qui arrive à attraper de loin et qui va dire là, je vais lui prendre son coup, là, je vais le. Voilà. C'est cette idée, c'est cette illusion-là de se dire ça va atteindre l'autre, ça va lui faire du mal. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que dans cette revue, le psychiatre dit même, en fait, l'amertume, ça revient à maudire l'autre. C'est une malédiction. Sauf que la malédiction se retourne contre celui qui la donne. Donc, c'est ça qui est absurde. La personne qui est blessée, elle va nourrir de l'amertume envers quelqu'un, et en fait, elle va se punir soi-même. Elle ne produira rien de bon. Et c'est ça qui est absurde, et c'est ça que Paul dénonce en disant, vous avez déjà été blessé, n'en rajoutez pas de ce côté-là. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ça ne produira ni justice, ni rien de ce à quoi vous voulez prétendre. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut être réaliste sans tomber dans l'amertume? Est-ce qu'on peut être prudent sans être cynique? Bon, encore récemment, j'entendais quelqu'un dire, mais moi, c'est normal que je suis dans l'amertume, je ne suis pas naïf. On dit, est-ce qu'on peut être dans ce rapport-là? Voilà, moi je suis dans l'amertume parce que je ne veux pas être naïf. Est-ce que l'un oblige forcément l'autre? Et alors, j'ai trouvé ce passage des évangiles où Jésus il envoie ses disciples dans tout Israël. Il leur transmet le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Et il leur fait certaines recommandations, notamment sur les oppositions qu'ils vont avoir. Et puis, il va leur dire, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, on se dit, mais pourquoi il parle du jugement de Sodome et Gomorre là ? Il les met en garde en disant, soyez simples comme des colombes, soyez prudents, certaines traductions disent soyez rusés, discernez où vous mettez les pieds, hein, et puis comme ça la poussière on l'enlève, comme ça les chaussures sont propres. Mais juste avant, il dit, voilà, il y a un jugement qui viendra de toute façon. Et ça revient à ce qu'on disait sur l'idée du profane, à celui qui n'espère plus la justice de Dieu. Avant cette mise en garde, Jésus leur dit, un jour il y aura une justice, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un vous crache dessus, si quelqu'un fait quoi que ce soit, je laverai votre honneur, je serai là. Une façon de dire, ne fais pas ta justice toi-même, ne pars pas tout seul, le vengeur masqué, quoi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a une justice, ne vous inquiétez pas. Donc il précède cette mise en garde en disant, un jour, je vais juger. Pas pour dire, il faut juger les méchants, mais pour dire, un jour, il y aura une vraie justice, une vraie justice. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par quelque chose et tu ne vois pas la justice ici-bas s'exercer, mais un jour, il y en aura une. Espère en ça, accroche-toi dans ça. Voilà. Ne sois pas dans le profane, ne crois pas qu'il n'y a pas de justice et que de toute façon, tu seras injuste avec les autres. Non, crois vraiment que je suis le Dieu qui est juste et qui pèsera bien les choses. Et toutes tes souffrances, tout ce que tu as traversé, toutes tes épreuves, un jour, eh ben, je te l'expliquerai et je t'élèverai dans ma gloire. Il y a vraiment cette idée. Et ensuite seulement, une fois qu'il a posé ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, bon, évidemment, il leur transmet le pouvoir de faire beaucoup de choses pour l'Évangile, donc il y a des choses glorieuses, mais il leur dit aussi, quelque part, vous allez passer par des moments difficiles. Et pourquoi il leur dit ça ? Pour anticiper justement l'amertume. Il ne leur dit pas, tout sera super. Tout va comme sur des roulettes, il ne se passera jamais rien, tout le monde va accepter, ce sera super. Il leur dit, vous serez probablement blessés par des choses de la vie, par des circonstances. Donc il veut remplacer l'amertume par la prudence. Mettez-vous en garde. Oui, il y a des loups. J'aime bien cette phrase. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ben, il y a des loups. Oui, ça existe. Et il est possible demain qu'il vous fasse du mal et qu'il vous blesse. Il peut y avoir demain une circonstance qui nous fait mal. Mais Jésus nous dit bien, soyez prudents, mais ne soyez pas amers. Attention à cette petite frontière qu'on peut vite traverser. Soyez prudents, mais ne soyez pas amers. Et c'est pour ça que j'aime bien quand il dit, et soyez simples, simples comme les colombes. Voilà, les colombes, c'est la paix. Voilà. Restez quand même dans cette simplicité. Restez dans cette simplicité, soyez prudents, mettez-vous en garde. Voilà. L'idée, ce n'est pas de dire tout le monde est pourri. Il y a des gens extraordinaires, il y a des gens qui vont s'opposer. On va prier pour qu'ils soient touchés par Dieu. Voilà. Je vous mets en garde, mais gardez vraiment l'idée de cette paix que Dieu donne. Et il y a aussi le passage, un autre passage qui rejoint celui-là, c'est quand Jésus dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Donc il ne leur ment pas. En fait, il y a vraiment cette idée où Jésus ne ment pas à ses disciples. Vous aurez des tribulations, vous aurez des moments où ça va être parfois difficile. Et l'idée, c'est de dire, quelque part, il faut accepter ça. Il faut accepter que dans la vie, peut-être demain, quelqu'un va te blesser. Il va te dire une parole et ça risque de te blesser. Peut-être qu'il y a une circonstance qui fait que demain, ce sera difficile. Il ne leur ment pas. Et c'est pour ça qu'il dit aux Hébreux, ce que vous traversez, ça a du sens pour Dieu, Dieu il le sait, ça a du sens. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose, quand vous témoignez de l'évangile, vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Et si tu vis une injustice dans un des domaines de ta vie, ce n'est pas absurde. Dieu il te montrera un jour ce que c'est. Déjà ici-bas, il nous révèle des choses, et dans l'éternité, tout prendra du sens. Donc ne soyez pas amers, vous allez vous punir vous-même. Oui, il est possible que demain, on soit blessé par une circonstance ou par une personne. Et si on traverse une injustice, si on traverse une blessure, il y a vraiment cette idée où Dieu dit, et en fait, c'est ce que dit Jésus à ses disciples aussi, les apôtres l'enseigneront aussi. C'est comme si Dieu disait, je m'en occuperai de tout ça. C'est comme s'il nous disait, l'injustice que tu traverses, laissez-moi vous rendre justice. En fait, laissez-moi m'occuper de vous. Laissez-moi m'occuper de vous. Restez tranquille. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je crois que c'est le plus dur. L'abandon, s'abandonner à Dieu. Bon nombre de victoires se trouvent dans l'abandon. On l'a vu dans l'Ancien Testament, en Israël ne pouvait pas gagner sans s'abandonner à Dieu. Souvent, les apôtres disent aux églises, reposez-vous en Dieu et vous y trouverez beaucoup, beaucoup de victoires. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En fait, quand il prend soin de nous, dans ses bras, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'idée d'avoir du ressentiment envers l'autre. On n'a plus peur. Et il y a vraiment cette idée de qu'il est bon de recevoir sa paix, qu'il est bon de recevoir sa présence, qu'il est bon de le laisser prendre soin de nous. Mais ça suppose de décharger sur lui tous nos soucis, parce qu'il y a vraiment cette idée que parfois on peut oublier et qui est typique de l'amertume, qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc l'abandon, c'est bon. C'est bon de s'abandonner. Des fois, ça fait des semaines, des mois, des années qu'on porte des fardeaux qui sont lourds, des choses qu'on n'a peut-être pas encore dit, des choses, des soucis. Il y a des choses qu'on a prévues dans notre vie qui ne sont pas encore faites, qui prennent du temps. Et on se fait du souci, on s'inquiète, et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et Dieu dit, maintenant, relax, tu vas me poser tout ça au pied de ma croix, et tu vas vraiment me laisser prendre soin de toi. C'est moi qui suis aux commandes. Si tu ne comprends pas tout, un jour je t'expliquerai, je accomplirai toute justice. Laisse-moi faire. Donc l'exhortation de ce matin, vous voyez, elle n'est pas très longue, elle est simple, mais c'était ce rappel de dire, laissons Dieu s'occuper de nous. C'est sans doute la leçon la plus difficile, et à la fois quand on est dedans, c'est la plus glorieuse. Laissons Dieu s'occuper de nous. Peut-être on a des soucis au travail, avec des amis, peut-être c'est dans la famille, il peut y avoir mille raisons. Des soucis financiers, logistiques, des projets qui n'aboutissent pas encore, des incertitudes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'aime beaucoup ce verset avec lequel je terminerai du prophète Jérémie dans ses lamentations qui se lamente au fil des chapitres. Et puis au bout d'un moment, il commence à faire silence et puis il dit cette phrase merveilleuse « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » C'est quelque chose de bon. C'est bon l'abandon. C'est bon. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, on veut s'abandonner à toi. Seigneur, on veut s'abandonner à toi, vraiment. Pas juste des paroles, on veut s'abandonner à toi. On veut se décharger sur toi de tous nos soucis. De tous nos soucis. Ta parole ne dit pas de quelques soucis, de tous nos soucis, Seigneur. On te les remet tous. Le travail, la famille, les projets, tout Seigneur, tous nos projets, toutes nos intentions, tout ce qui doit arriver. Seigneur, on te l'abandonne au pied de ta croix. Seigneur, merci pour cette grâce, parce que tu prends soin de nous. Et Saint-Esprit, on te demande maintenant de descendre sur chacun d'entre nous, renouvelle notre cœur. Renouvelle notre santé, notre corps, renouvelle notre esprit. Seigneur, on ne veut pas accueillir l'amertume, on veut accueillir ta paix, la recherche de ta paix qui surpasse toute intelligence. Saint-Esprit, on te demande une double portion de ta présence maintenant sur chacun d'entre nous. On veut être dans une culture de l'abandon, mais l'abandon en toi, pour te laisser agir, pour te laisser ouvrir les bonnes portes, pour te laisser nous bénir et te glorifier dans nos vies, Seigneur. Tellement extraordinaire de pouvoir te prier comme ça. Gloire à toi, Jésus. Amen.
Merci, Nicolas.